Bon vendredi tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi où on présente les meilleurs extraits de nos épisodes et de nos chroniqueurs dans toute liberté. On commence immédiatement avec l'extrait du mercredi avec Jacinthe Varel qui nous présente le fait que les politiciens d'aujourd'hui ont perdu pas mal toute leur noblesse. On est rendu, comme à bien des places, comme tu l'as dit, avec des gens à la barre qui étaient un petit peu trop incompétents. On est rendu, malheureusement, on n'est plus rendu aux petites solutions de remède de grand-mère. On est vraiment rendu au remède de cheval. Autant que je ne suis pas un expert en immigration, mais de ce que je vois, autant que je comprends que pour ce qui est travailleurs étrangers puis travailleurs saisonniers, je laisserais ça comme c'est là. De toute façon, ça va quand même très bien. Même j'allégerais les difficultés pour pouvoir en amener, puisqu'il y en a plusieurs, c'est vraiment du monde travaillant, puis c'est aucunement des immigrants, je pense, en très, très grande majorité qui nous font défaut. Par contre, là, c'est mon mini côté zémourien qui sortirait, ben shut it down. Pendant un certain nombre de temps, immigration is out. T'sais, on le voit dans tout, on le voit dans le système de santé qui est pas capable de le gérer, on le voit dans le niveau du logement qu'on n'est pas capable de les héberger. On le voit que c'est rendu qu'il y a des camps de sans-abri jusqu'à Joliette. Puis ça, c'est juste au Québec. Dans le Canada anglais, c'est encore pire à différents endroits. Puis la merveilleuse maire de Toronto, la veuve de Jack Layton, a l'air de trouver ça extraordinaire. Puis c'est ça que je trouve plate parce que le débat de l'immigration a tellement été, je dirais pas targué, mais tellement enivré d'une genre de velours, d'altruisme, que si automatiquement tu poses des questions envers l'immigration, t'es un intolérant, t'es un xénophobe, t'es un ci, t'es un ça. Alors qu'à une époque, il y avait des pays, je comprends que ça date d'un peu longtemps, mais que immigration zéro, ou du moins très très peu pendant une année de temps. À la limite, c'est étudiant universitaire, travailleur étranger, saisonnier, that's it. Sachant que là, ça déborde. Quand tu laisses ta champlure dans ta salle de bain ouverte, mais t'as pas le truc pour justement dans le lavabo pour que l'eau ça coule, puis ça tombe partout, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, ben là, faudrait acheter des contenants plastiques pour ramasser c'est l'eau à mesure. Non, tu fermes la champlure avant toute chose, c'est la première étape.
Non, mais tu pourrais construire une deuxième salle de bain pour s'assurer que finalement...
Ouais, un autre lavabo en dessous du premier lavabo, c'est juste pour récupérer l'eau. Mais c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. Puis écoutez, je comprends qu'on parle de vie humaine ici, là. On parle pas de transport de marchandises ou quoi que ce soit, je suis tout à fait conscient de ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme le gros éléphant dans la pièce de se dire pourquoi pas penser à ça, du moins pendant un certain temps. C'est pas éternel, on aura toujours besoin d'immigration. C'est pas vouloir devenir isolationniste puis revenir au Japon de la période Edo puis qu'à part quelques marchands hollandais, on parle pas à personne. Non, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que autant je ferais pas un genre de Bob Côté ou un Éric Zemmour de moi-même en disant que tout est la faute des méchants immigrants. Non, on a des problèmes plus complexes au Québec. On voit que c'est très structurel puis c'est pas une question d'argent. Par contre, ce qui met encore plus la pression sur nos systèmes déjà défaillants, c'est cette immigration massive-là qu'on n'a pas 100% des pouvoirs.
Ouais, mais c'est comme si les politiciens ou la politique a perdu toute sa noblesse. Mmh. Quand je dis la noblesse, je fais référence à ce sens du devoir, ce sens de mener la population, mener ton État vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus juste. Et si t'es élu, tu dois contribuer à amener l'État vers quelque chose de mieux. C'est cette noblesse-là à laquelle je fais référence. On a plus l'impression qu'on a des politiciens qui sont dans des rôles transactionnels. Alors, on transige des décisions, on transige des portefeuilles, toujours à courte vue, dans des objectifs très électoralistes. Et on est dans la politique du paraître. Paraître, paraître, paraître.
Absolument. Donc, ce n'est que ça.
Remets des grands politiciens qui ont fait de la politique avec hauteur, avec droiture, avec grandeur, avec vision, dans un esprit aussi de collaboration. Puis c'est un peu, tu sais, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. Quand je parle des relations intergouvernementales qui vont pas bien entre Ottawa puis Québec, c'est lié directement aux gens, aux personnes qui sont en place, aux détenteurs de postes, les ministres provinciaux du Québec, les ministres fédéraux d'Ottawa n'exercent pas leurs fonctions avec cet impératif-là de travailler en collaboration, en concertation, se faire un devoir d'avancer puis de travailler ensemble. Vous avez été élus, nous avons été élus, on doit travailler ensemble, on doit trouver des solutions, on doit faire progresser respectivement nos juridictions. Je sens pas cette hauteur-là dans leur devoir. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, on va piétiner dans des chicanes comme ça, de bas étage.
Il n'y a pas de vision à long terme, hein, Jacinthe. Non. On le dit depuis tout le temps, mais sommes-nous surpris, sachant d'un gouvernement caquiste qui gère à petite semaine depuis quasiment son arrivée au pouvoir en 2018, tu sais, qu'ils sont pas capables d'avoir plus d'une vision long terme de plus d'un mois ou presque. Tu sais, c'est tant aux une, deux semaines maximum, tout dépendant de ce que les chroniqueurs et les les journaux vont nous sortir. Puis, ben, le v'là, le vrai courage politique, là, le v'là, le vrai courage. Hein? Le courage en politique, c'est pas faire des décisions antidémocratiques que la population ne veuille pas. C'est de vouloir avoir une vision. Quand tu rentres en politique, c'est je veux faire ça, 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 voici comment je vais le faire. Mm. Et tu essaies de convaincre la population. Mais par contre, l'humilité que quand, même si tu as une vision puis tu y crois, si le monde ne veut pas embarquer, le vrai courage, c'est aussi de dire parfait. Vous avez entendu, je trouve ça plate, j'aurais aimé ça beaucoup faire ça, mais Vox Populi, Vox Dei, mm-hmm. vous en voulez pas, that's it, that's mm-hmm. out. Pas, ah oh, mais là, faut être courageux, puis des fois, faut prendre des décisions qui sont pas populaires, mais qui peuvent être les bonnes. Benoît Marchand, en passant qu'il a dit ça, hein, quasiment mot pour mot, là, je paraphrase à peine. On poursuit avec le docteur Karim El Ayoubi qui nous présente le fait que Québec veut empêcher les médecins de faire du va-et-vient entre le public et le privé afin de faire davantage de chirurgie.
Regardons maintenant cet article oui. intitulé « Vers un frein au va-et-vient » de Tommy Chouinard, journaliste très renommé de la presse.
Ouais, c'est pas le pire, faut le dire.
Non, faut le dire, là, c'est-à-dire que c'est un journaliste qui est très crédible. Mm. Québec a l'intention de freiner l'essor de la médecine à deux vitesses. Ah oui, bon, OK.
Ouais, comme ça serait pas déjà le cas.
Il envisage de resserrer les règles permettant aux médecins de faire le va-et-vient entre le régime public et le privé, où des patients sont prêts à payer des milliers de dollars pour se faire opérer et éviter les listes d'attente. OK.
Mais pourquoi osent-ils payer des milliers de dollars dans une province où c'est que le trois quarts des ménages gagnent moins de 30 000 dollars par année, Karim?
C'est la question à se poser. C'est vraiment la question à se poser. C'est-à-dire qu'on veut freiner ça. Mais est-ce que le gouvernement, à l'heure actuelle, a calculé les coûts et les bénéfices de freiner ça? Si vous le freinez, mais c'est important.
Ah, tout, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Penses-tu qu'ils ont pensé à ça? Non, au Québec, c'est qu'on guérit au lieu de prévenir.
Tout à fait, et je répète la dernière phrase ici. Où des patients sont prêts à payer des milliers de dollars pour se faire opérer et éviter des listes d'attente. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui considèrent que de payer quelques milliers de dollars pour se faire opérer, ils ont un gain de productivité, un gain de jouissance de la vie? Est-ce que ça, Absolument. C'est possible? Pourquoi vous voulez empêcher ces gens-là de le faire. Mettons, moi, qu'on m'amène un modèle vraiment concret, précis, qui me dit, si on empêche ça, on a un réseau public extraordinaire qui fait en sorte que tous ces gens-là n'auront pas à aller au privé, ne payeront pas au privé, vont pouvoir jouir de la vie, avoir des soins de santé dans des délais raisonnables. J'achète la proposition, mais ça fait 40 ans que vous essayez et que vous n'y arrivez pas. Vous arrivez avec cette dernière phrase où des patients sont prêts à payer des milliers de dollars pour se faire opérer et éviter des listes d'attente. Ben, ces patients-là, pourquoi ils le font? Ça peut être quelqu'un de 72 ans qui le fait parce qu'il sait que son espérance de vie est autour de 80. Puis lui, les 8 dernières années de sa vie, il considère que d'investir dans sa santé, ça en vaut la peine parce qu'il veut jouir de la vie. À partir de ce moment-là, si vous interdisez la pratique mixte ou si vous la rendez tellement compliquée, comment vous allez récupérer dans le réseau public ce gain de productivité de 2 à 2 fois plus important que vous avez au sein des plateaux techniques privés? Comment vous allez faire ça? C'est là que Christian Dubé se doit de me répondre, honnêtement. Là, je commence à être tanné de tout ça. À un moment donné, là, c'est bien correct là, de tourner autour du pot et d'avoir un ministre de la santé que tout le monde adore. Puis moi, j'ai passé à peu près là, 1 an à pas le critiquer puis à être bon joueur. Mais là, c'est assez. On continue là-dessus. Là, puis je suis pas de bonne humeur.
Karim is angry.
Dans les 10 derniers mois, 137 médecins ont quitté temporairement le régime public plus d'une fois pour aller travailler dans le privé. Oh, quelle catastrophe. C'est le double d'il y a 5 ans.
Ah, on s'en rend pourquoi?
Le phénomène est en hausse de 10% par rapport à l'année de 2022-2023. OK, il y a une hausse. On comprend qu'il y a une hausse. Mais ça demeure relativement marginal et on va y arriver à la fin de l'article.
Ben oui.
Ça demeure quand même 3,7%. Je veux dire, c'est ultra marginal par rapport au nombre de médecins qui sont dans le réseau public. Mais quand même, OK, il y a une hausse, il y a une forme de tendance, c'est correct. OK, on peut se poser la question. Est-ce que la réponse, c'est plutôt que le réseau public ne répond pas à la demande? Ou c'est le fait que tu as des gens de docteurs qui veulent absolument avoir, c'est l'appât du gain? Moi, je peux vous le dire personnellement, je suis dans le réseau public à l'heure actuelle. Je sais très bien combien ça me rapporterait dans le réseau privé. ce ne serait pas plus que dans le réseau public. Là. De dire que le réseau privé est ultimement plus payant que le réseau public pour les médecins, c'est faux de façon générale. Moi, je n'aurais même pas d'intérêt financier à aller dans le réseau privé. On regarde dans l'article « Médecins ayant quitté le régime public depuis un an selon la spécialité. 32 orthopédistes, 23 radiologistes, 15 pneumologues, 12 chirurgiens généraux, 10 ophtalmologistes, 45 autres. » Ça veut dire des omnis, là, la majorité. Ouais. Bon, mais on est dans des ratios très marginaux. Là. Quand tu regardes, tu n'as pas là, 10 000 qui ont quitté. Mettons que tu prends tous ces médecins-là, OK? Ce qui regroupe, là, quand on le voit dans l'article un peu plus bas, autour de 3,7%. Vous imaginez-vous vraiment que de rapatrier ces médecins-là dans le réseau public, soudainement, vous allez avoir un réseau public ultra performant? Et là, on va se comparer aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la Suisse. Non, ça arrivera juste pas. On est dans une inversion du réel ici.
Non, puis c'est plus une genre de réaction de culte. Ah, comment ça, vous osez quitter le paradis? Mais non, c'est impossible. Tout le monde aime le paradis.
Révision des règles. Les règles actuelles favorisent le va-et-vient entre le public et le privé. Faux. Les règles actuelles restreignent le va-et-vient. Parce qu'à l'heure actuelle, avec les règles, il faut que tu remplisses une paperasse. Je sais très bien c'est quoi cette paperasse-là. Il faut que tu la remplisses. Juste le fait de la remplir, là, c'est très tannant. Et il faut que tu l'envoies, il faut que tu attendes 30 jours pour pouvoir switcher. Et lorsque tu veux revenir au public, il faut que tu remplisses la même paperasse, tu attends 8 jours. Donc, tu as des délais qui restreignent. Contrairement à Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Norvège, Australie, qui sont des systèmes qui performent beaucoup plus que les nôtres et qui n'ont pas ça du tout. Il n'y a pas d'interdiction de la pratique mixte. Il y a des modèles beaucoup plus performants qui existent. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que notre modèle se doit de persister.
Mon cher Féline, Karim, puis tu le sais plus que moi, c'est qu'il va s'effondrer avant de persister.
C'est ça, exactement.
Puis surtout, en plus, s'il passe une affaire comme ça, c'est comme je te dis, c'est la 15 millième version de comment se tirer à grands coups de shotgun d'un genou. Là, c'est, au contraire, vous retardez pas l'inévitable, vous l'accentuez, vous le mettez sur fast forward. Là. Puis regarde, on peut finir avec un peu la fin de l'article. Cet exode s'observe surtout chez les jeunes médecins de famille, un phénomène quasi inexistant auparavant. Ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans à bouder le régime public pour exercer leur profession dans des cliniques privées où les soins sont facturés aux patients. Oh! Ils jonglent avec différentes idées, comme celle d'obliger les nouveaux médecins à pratiquer au moins 5 ans dans le réseau public.
Je pense qu'on est dans Orwell, honnêtement.
Ah, ça n'a pas de bon sens. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a déjà signalé au cours des derniers mois que de plus en plus de jeunes font maintenant le choix du privé en début de carrière. Mais tu pourrais quasiment inverser les deux phrases. Ils font ça parce que, justement, le gouvernement ont des idées aussi folles que ça de vouloir les forcer. C'est tellement capoté parce que justement, je le vois venir, qu'est-ce qui va arriver. Là. On va dire comme l'empereur Palpatine, là. All according to plan. Là, ça va être, OK, on enlève les agences de placement privées pour les infirmières. On réduit justement, on met 180 jours, peut-être même plus, les médecins, le va-et-vient entre le public et le privé. On les oblige à faire au moins 5 ans dans le public avant de starter. Le système va s'effondrer. Je suis désolé, mais moi qui serais un jeune médecin qui voit ces nouvelles politiques-là, puis je suis en processus de faire mon doctorat puis d'être gradué. À seconde que je gradue, je sac mon camp de la province. Je vais aller soit dans une autre province canadienne où c'est qu'il n'y a pas ça, ou à la limite, je vais aller faire ça dans un autre pays. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de productivité. Je vais-tu vraiment passer mes journées comme moi, médecin, j'ai fait 12 ans d'études pour remplir des crises de rapport? Non, je vais aller soigner le monde. T'sais, c'est comme si tu t'en vas dans l'armée pour servir ton pays, puis que 3/4 du temps, on te demande de remplir des sacs de sable. La barouette. Quand est-ce que je vais le voir, le front? Quand est-ce que je vais affronter l'ennemi? Ah non, on a besoin de sacs de sable. Je dis pas que c'est pas important, les sacs de sable, mais à un moment donné, il n'y a pas juste ça non plus. Là.
C'est quand même une belle comparaison. Non,
j'aime bien. C'est un peu ça. On continue avec un extrait de mardi avec notre chroniqueur José Soucy, avec qui j'ai une pas pire discussion sur l'avenir du Québec et l'indépendance.
Je veux pas revenir dans le passé, au référendum de 95, écoute, moi j'avais 16 ou 17 ans à ce moment-là, non, 16 ans. Ok, toi t'avais quoi, t'avais 3 ans, 2 ans?
Un an,
okay. Bon, ça me rajeunit pas,
ouais, ceci étant... Je l'ai vécu dans le berceau, le référendum, pour être bien fait.
Mais ceci étant, 60% des Québécois francophones ont voté oui. Et tu sais que l'immigration, ils l'ont fait rentrer à pleine perche, justement pour empêcher le référendum de passer. Tu sais, je veux dire, on se l'est fait voler, je sais que le monde n'aime pas entendre ça, mais si tu analyses la situation de l'époque, c'est clair qu'on se l'est fait voler. Il va falloir un jour, je pense, il va falloir qu'on le règle, qu'on pose la question, il va falloir qu'on ait un dernier rendez-vous. Je sais pas quelle forme que ça va prendre, bien entendu, ça, c'est l'indépendantiste qui parle. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, surtout pas avec Joey. Ben toi, Joey, t'es indépendantiste.
Ouais, mais c'est ça, on espère plus un rendez-vous doux à la Jerry Boulay, si possible. Parce que là, personnellement, le rendez-vous au PSPP forcé, m'a dit comme Karim El Ayoubi, c'est pas des souverainistes, c'est des référendistes. C'est le principe classique. Là. Je l'ai déjà dit avec Karim, puis je vais te le dire avec toi, José. Puis avant de vouloir changer le monde, commence par faire ton lit le matin. Avant de vouloir d'être indépendant puis de dire que t'es capable de te gérer toi-même, commence par unfucker puis à régler tes propres problèmes sur ton terrain avec ce que tu peux. Je comprends, il y a une partie qui relève du fédéral par rapport à l'immigration, tu peux pas y régler tout seul. Fine, ok, t'as de l'argumentation. Mais dans les compétences qui sont les siennes, l'éducation, la santé, l'économie, la liberté des citoyens, commence par régler ça. Après ça, on s'en jasera. Ouais, autant que moi, je suis souverainiste, bien évidemment, puis je veux l'indépendance du Québec, mais je me dis, le rêve du « on déplogue », puis les chants des cigales vont commencer, puis ça va être merveilleux, puis les lendemains de rêve vont commencer au lendemain. Ça sera pas ça. Au contraire. Puis j'ai l'impression que le forcer, alors que selon moi, on n'est pas prêt, autant au niveau de la mentalité démocratique, puis le respect des droits individuels de la population, en plus de notre niveau économique, en plus de notre niveau de notre gouvernement, en général, puis notre discrimination par rapport à la liberté comme valeur en soi, le peu de contre-pouvoir que l'État québécois centralisateur qui veut tout le temps tout réglementer, puis tout régler, puis gérer nos vies, ben le peu de contre-pouvoir qui reste, qui sont le fédéral ou les tribunaux, la Cour suprême ou whatever, qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent, ben on dirait que c'est plus pour libérer l'État que libérer les citoyens du Québec.
Mais moi, c'est pas ma perception. Je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends très bien le discours qu'entretient Yann et Frank et ces gens-là. Si je regarde ça de votre perspective, je te dirais oui. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est une question de liberté et de survie, tout simplement. Moi, c'est une question de gérer moi-même, Simonac, de plus dépendre des autres. Je veux dire, au début de la Confédération canadienne, plutôt avant, à l'Acte d'Union, les Canadiens français étaient majoritaires et la dette du Canada français était beaucoup moins grosse que celle du Canada anglais.
Ouais. Ils ont fusionné les deux parce que la dette du bas des anglophones était considérablement élevée et voulaient leur baisser.
Oui. C'est le poids politique du Québec. On parlait de Mitch tantôt, de Brian Mulroney. C'est ça qu'il faut penser. En 1840, on était plus de 50% de la population. Là, on est rendu à 23%. On parle du Québec. Mais au Québec, sur 9 millions, on est 7 millions de francophones. Tu comprends? C'est une question de survie, qu'on le veuille ou pas. Ouais, on est appelé à disparaître si on se prend pas en main. Pierre Falardeau, là, il était un peu, là, comment je te dirais, il est pas comme le PQ. C'était vraiment pas une question de liberté.
Il était un peu, ben, je dirais pas qu'il était anarchiste, mais il était un peu plus rebelle, ces bords-là.
Absolument. C'est ce qui faisait son charme. Moi, j'adore Pierre Falardeau. Oh, ouais. Mais quand un peuple, ça meurt longtemps, puis ça fait mal. Là-dessus, il y a raison. C'est pour ça, moi, que je veux me séparer. Moi, mon cœur, comme je l'ai déjà dit, est français, et je veux que le rameau français persiste en Amérique du Nord. Mais ça, c'est moins, OK? Tandis que de l'autre bord, les gens qui sont nationalistes peut-être un peu, mais pas séparatistes, j'aimerais leur poser la question suivante. Est-ce que ça vous dérange, vous, un jour, de juste parler anglais, ou que votre culture et votre identité disparaissent? Je veux pas apeurer la population, mais regarde ce qui se passe à Montréal. T'as juste allé même au Nouveau-Brunswick, là, c'est pas loin de Rivière-du-Loup, d'où je viens, là, dans le coin d'Edmundston, puis des gens que je connais qui viennent d'Edmundston me disent que le français le recule aussi. Plus que ça va aller, plus que ça va reculer. Maintenant, je suis pas pour mettre des lois et de la contrainte. Par le principe de fierté et d'amour pour ce qu'on est, on serait en mesure de faire l'indépendance. Et non pas pour des histoires de compétences fédérales, provinciales. C'est pour la liberté en tant que telle. Où ce que je te rejoins, par contre, c'est que le PQ, pendant la crise covidienne, ne m'a pas défendu, moi qui n'étais pas vacciné.
C'est que c'est plus loin que ça. C'est que justement, l'argument central, c'est que, puis écoute, j'en ai fait des bulletins de nouvelles, puis des clips de PSPP, puis des entrevues, j'en ai vu. Là. À toutes les fois qu'on lui demande les arguments de l'indépendance, c'est tout le temps le collectif de ci, puis le pouvoir du peuple, puis de ci, puis de ça. Jamais, je te dis, jamais, j'entends le mot liberté dans le discours. Never. Sauf pour dire que l'État québécois, ils n'ont pas les citoyens, l'État québécois va être plus libre de faire ce qu'il veut. Mais contrairement aux péquistes puis aux bloquistes, je suis capable de séparer l'État, c'est pas les Québécois. Je suis désolé, mais sortez-vous ça de la tête, calvaire, c'est votre pire défaut. L'État du Québec, le gouvernement du Québec ne sont pas les Québécois. Au contraire, c'est son pire ennemi, calvaire. Et une très grande majorité de ceux qui voteraient non au prochain référendum ne sont pas des fédéralistes purs et durs, tripeux de la reine, c'est rendu là. droit puis des rocheuses. C'est qu'ils se disent carrément que déjà que j'ai l'impression que cet état-là, toujours plus centralisateur, la méthode Ginette Renault, hein, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus état, toujours plus de fonctionnaires, à toutes les solutions, c'est tout le temps la coercition, c'est jamais la décentralisation, c'est jamais de vouloir donner plus de liberté aux gens, c'est toujours plus de règles, tout de ci, de ça. Ben, ils me disent, ben, c'est drôle, j'aime mieux être dans un Canada que des places comme l'Alberta où c'est que c'est toutes les organismes qui ont fait les recours collectifs pour justement les mesures sanitaires puis le combat de la liberté. Ceux qui apprécient encore la liberté comme valeur fondamentale, ben, j'aime bien mieux rester dans un Canada imparfait puis qu'il y a encore des gens qui sont pour liberté dans ce pays-là que de me retrouver tout seul, oui, libre, dans un pays Québec indépendant, mais tout seul avec mon agresseur, entre guillemets, là, tu sais. Si je peux résumer mon argument, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens au Québec qui trossent pas le gouvernement québécois.
Ah, mais ton
encore moins la classe politique, tu sais.
Joey, je suis 100% d'accord avec ce que tu avances. En contrepartie, ça, je l'ai écrit et je le dis là, je te l'ai déjà dit, si le PQ veut faire l'indépendance du Québec, il devra se tourner plus vers la droite, c'est-à-dire se recentrer rapidement. Le PQ doit absolument se recentrer. S'il ne se recentre pas, il ne sera jamais capable de faire l'indépendance.
On continue avec un extrait de jeudi avec notre mairesse du podcast, Luce Dano, avec qui on se questionne, est-ce vraiment de l'intimidation que vivent nos élus municipaux ou est-ce plutôt une fragilité? Article de Radio-Canada, éprouvé, le maire des Éboulements quitte le navire municipal. Et de ce qu'on comprend, il y a un peu encore d'histoire d'intimidation, entre guillemets, mais c'est majoritairement de ce que je comprends. T'sais, le maire, ça fait 10 ans qu'il est élu municipal. Je pense qu'il est vraiment le temps de prendre sa retraite de son côté. Et de ce qu'on peut voir dans certaines de ses déclarations par rapport à certains citoyens, là, c'est vrai que certains citoyens ont été un peu trop loin reliés à ça. On parle ici, par exemple, qu'un citoyen lui a proposé d'aller chez lui pour lui faire connaître le gros bon sens. On lui a reproché de ne pas connaître les enjeux parce qu'il n'est pas de la région. Quand vient d'arriver, il y a peut-être un peu ça, mais après 10 ans, je veux dire qu'il y a encore ça. Par contre, critiquer l'élu ou le maire en question parce qu'il gagne trop d'argent, mais ça, c'est pas de l'intimidation. Je pense que c'est légitime. Là. Personnellement, c'est ça. Le salaire des élus est aussi primordial. Question, sachant que c'est des citoyens qui payent ces salaires-là. Mais c'est ça. On dirait que la ligne est mince entre là, tout ce qui peut être catégorisé d'intimidation ou d'harcèlement. Mais là, il y a un nouveau mot, Luce. Là, on dit plus intimidation ou harcèlement, là, on dit incivilité. On vit de plus en plus d'incivilité de la part des citoyens. Personnellement, je trouve que c'est un mot un peu fourre-tout.
Oui, mais en fait, les règles de civilité, c'est des règles de bienséance, hein, de respect. Oui. Fait que oui, on pourrait, moi je trouve que ce serait moins fort de dire qu'il y a de l'incivilité. Admettons qu'on parle de citoyens ou entre élus, il peut y avoir de l'incivilité entre élus aussi, ce serait de manque de retenue. On dit un petit peu trop ce qu'on pense, il y a moins de filtres qu'avant. En fait, moi je trouverais ça mieux que intimidation, parce que l'intimidation, il y a un effet de répétition, comme on l'a dit, on a un rapport de force, il y a un fossé qui se crée, il y a des malaises profonds, les gens des fois prennent des antidépresseurs pour s'en sortir, là. C'est quelque chose. Moi, j'ai lu l'article, puis je pense que le maire, puis les journalistes sont bons, là, vraiment, pour te faire parler, mais c'est sûr que les journalistes, ils ont dû dire, puis vous, là, vous, est-ce que les citoyens, puis vous, là, comment ça se passe? Puis,
ils ont tiré vers du nez.
Ben, ça se peut, là, parce que il dit des choses là, qui me fait penser ça. Il dit d'abord qu'il a reçu plutôt des commentaires désobligeants. Le monsieur Tremblay dit pas « j'ai été intimidé, on m'a téléphoné, puis on m'a attendu sur le coin de la rue ». Non, il dit « j'ai reçu des commentaires désobligeants ». Moi, je trouve que c'est bien articulé de dire ça. C'était désobligeant. C'est plate de recevoir ça. C'est pas le fun. Ça, j'ai trouvé ça très chouette de sa part de dire ça. Et il dit aussi, le journaliste l'écrit comme ça, « bien que le maire refuse de parler d'un climat toxique, il évoque une difficulté à travailler dans le conseil municipal actuel ». Je vais vous dire, c'est plus difficile d'être un élu quand ça va pas bien dans son conseil municipal, de dire qu'on peut endosser pas mal de paroles de citoyens, ça nous fera pas broncher. C'est quand, dans le conseil municipal, que rien ne va plus et qu'il y a de l'incivilité là, on va prendre le mot, le nouveau mot, ben ça, c'est bien pire, parce que tu travailles avec eux, tu veux avancer avec eux, c'est décourageant autrement. Faut être fait fort.
Je comprends, le terme incivilité a une définition en soi, mais de la manière que je le vois utilisé par certains élus qui quittent récemment, j'avais fait un bulletin de nouvelles, je pense, la semaine dernière, ou la semaine d'avant sur une jeune mairesse qui quittait, puis elle demandait quasiment un genre de soutien davantage aux élus, puis d'apprendre aux citoyens pas servir d'incivilité. On dit qu'ils se servent de ce terme-là dans leur tête à eux pour dire que tu vas voir le conseil municipal où tu t'en vas te plaindre à l'hôtel de ville ou dans une période de questions pour telle chose. On dirait qu'il faudrait jamais que qu'est naturel. C'est comme je pose ma question, j'en dis pas plus, même si je t'en joie le vert. Non, faut pas qu'il y ait un mot d'écart qui soit dit. Parce que oui, tu sais, la vie, c'est la vie. Surtout en plus qu'on dit que le municipal, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche des citoyens. Mais ça se peut qu'à un moment donné, oui, on souhaite tous que nos échanges soient respectueux et qu'on n'aille pas dans les attaques personnelles, puis m'assis, puis maman, va donc chier ou peu importe. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a un enjeu qui touche un citoyen en particulier, puis ça le frustre ou qu'il y a une situation désagréable pour telle raison, ben ça se peut à un moment donné que même en 2024, il y a une couple de sacs qui sort au travers. Est-ce que c'est incivil? Potentiellement que oui, mais encore là, ça fait partie de la job. C'est là que j'ai l'impression qu'on a déjà parlé, toi puis moi, Luce, il y a plusieurs semaines, à quel point c'est rendu tellement fragile la tolérance de nos élus vis-à-vis de ça. Parce que si t'as une mairesse, regarde, je prends un scénario vraiment purement fictif, mais t'arriverais à ton conseil municipal, t'es mairesse de la municipalité, puis il y a quelqu'un qui dit « Toi, ma vieille crise, puis de ci, puis de ça. » Wow, là, absolument, c'est inacceptable. Mais si il y a une histoire par rapport au déneigement whatsoever, il dit « Madame la mairesse, je suis plus capable en tabarnak, il dit ça penche pas comme ça. » Ben là, autant que tu peux te dire « Oui, il y a un langage, on va dire, ordurier, mais tu comprends son point, puis je pense qu'il critique plus la situation que nécessairement toi, personnellement. » Fait qu'à la limite, tu commenceras pas à dire « Ah non, monsieur, je vous arrête tout de suite, là. Là, nous n'acceptons... » C'est comme quand t'appelles à Hydro-Québec ou t'appelles chez Bell. « Nous n'acceptons pas de langage ordurier devant nos employés. » Il y a un jugement à faire entre vraiment des critiques légitimes qui sont pas toujours écrites à l'Académie de la langue française. Si on parle de simples citoyens ici, non, mon but, c'est pas de dire qu'ils sont pas intelligents, mais disons que c'est ça. Tu t'en as de toutes les sortes, puis il y en a qui s'expriment mieux, il y en a qui s'expriment plus mal. Mais de commencer à dire que là, tout devrait être sanitarisé, on prend un mot populaire de dernières années, les échanges devraient être tous neutres, sanitarisés, à la limite tout en gris, que ah, là, il n'y a plus aucun mot de travers et on se parle tous dans la joie et dans le bonheur, c'est souhaitable, mais automatiquement, la vie est ainsi faite que ça arrivera pas à un moment donné. Il y a des problèmes qui vont arriver, puis il y a des gens qui vont venir se plaindre, puis certains peut-être plus animés que d'autres, mais encore là, il y a une différence. Je pense qu'il y a une ligne qui doit être mise en, comme je l'ai dit, les attaques personnelles, le langage sévère et uniquement la critique reliée à ça, finalement. Et on termine, comme à chaque vendredi, avec Sensei Pascal, avec qui je vous donne un petit amuse-gueule de la présentation de première partie qui nous présente comment découvrir la Californie à petit prix.
Je suis en train de préparer une belle excursion dans l'Ouest américain pour cet été. C'était pas supposé d'être ça ma destination voyage, mais je suis rendu avec une super belle partner d'aventure. Donc, c'est un coin du monde qu'elle n'a pas vu. Fait qu'on s'en va partager ça ensemble cet été. Ben, hâte de faire cette aventure-là. Fait que ça me replonge dans la planification. Fait que c'est l'idée du podcast de ce matin. Mais ça me ramène aussi dans ma planification de voyage, là, gang, avec l'expérience que j'ai pour la Californie, ça m'a pris littéralement une soirée. Pas plus, pas moins. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que dans la façon que je vais vous proposer de voyager, ça va vraiment vous enlever du stress de préparation. On fait comme, ah, faut que j'amène ci, j'amène ça. T'as tellement besoin de moins que tu penses. Tout ce que j'ai à faire, c'est de réserver un billet d'avion, puis de réserver une voiture. Puis c'est fait. Tout ce que vous avez à faire avant, moi, je trouve que c'est quasiment la partie, peut-être pas la plus fun par rapport au voyage, mais quasiment. C'est la préparation du voyage. Fait que dépendant de la destination, moi, je pense que les stratégies que je vais vous proposer dans un milieu comme l'Amérique du Nord, comme l'Europe, ça peut super bien s'appliquer. Pour d'autres destinations un peu plus exotiques, il faut un peu plus de préparation. Vous allez voir pourquoi. Ce que je vous propose, c'est un road trip. Donc, quand je vais faire un endroit comme la Californie, qui regorge de beauté, puis de beauté avec un S, que ça soit autant naturel que urbaine, que des attractions, ça se découvre du nord au sud, de l'est à l'ouest, en voiture, comme hyper bien. Tu te fais un itinéraire, ça te permet de découvrir des endroits extraordinaires, ou même la route est le fun à faire. Donc, à ce moment-là, ce que tu as à faire, c'est de te louer, comme je t'ai dit, c'est de louer une voiture à partir de ton point A au point B. Il faut que tu fasses ton itinéraire au départ. Ta lecture va t'emmener à faire ton itinéraire et voici ce que je vous propose. Moi, j'adore la collection de livres Voir pour le voyage. Quand j'ai une destination, là, c'est mon premier trip. Ah, j'ai décidé d'aller en Thaïlande ou j'ai décidé d'aller en Égypte. C'est mon gros fun d'aller à la librairie, d'aller dans la section voyage. J'ai dit librairie, pas en 19 1927. Mais les livres manuscrits, ça a encore son charme, ça a encore son odeur, ça a encore son fun de dire « je suis pas en vendre un Christie d'écran ». C'est un livre qui a été bien détaillé, qui a des beaux chapitres sur, par exemple, l'historique de l'endroit où vous allez, le contexte social-politique, les règles de sécurité. C'est un des chapitres que je lis en premier. Par exemple, quand je suis en train de planifier mon voyage au Japon ou même quand la première fois que je suis allé en Californie, je veux savoir quel quartier de LA il ne faut pas aller ou quel quartier tu devrais peut-être éviter. Tu sais, ça ne te tente pas de faire le touriste entre deux gangs qui se tirent d'un bord puis de l'autre de la rue. Fait que c'est genre juste le petit truc-là que si tu sais, t'es moins con. Parce que quand vous êtes touriste, gang, vous êtes hyper vulnérable, vous n'êtes pas chez vous et vous ne devriez pas vous comporter comme si vous êtes chez vous, wink wink. Vous devriez arriver avec, même si c'est en Californie, même si c'est dans un, mais encore plus, c'est dans un autre pays avec une autre culture. Quand je suis allé en Égypte, tu arrives là, tu fais comme eux autres. T'es pas là pour imposer tes choses, que moi j'appelle voyager à l'américaine. By the way, les Américains, internationalement, ils n'ont pas une bonne réputation. Fait que quand vous allez dans des destinations exotiques, je vous conseille très fortement de mettre sur votre sac à dos, là, votre daypack, là, celui que vous amenez avec vous autres pour vous emmener vos affaires à tous les jours. Faites-vous broder une petite patch de drapeau canadien. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à vous autres qu'un Américain, qu'un Allemand, qu'un Français. Ils ne savent pas. Ta peau blanche, tes yeux pères, tu ressembles à un autre. Là. Puis les Canadiens ont une vraiment une bonne réputation à travers le monde. On est vraiment vu comme un peuple, les gentils, entre guillemets, c'est les Canadiens. Fait que si vous voulez avoir un bon contact avec les gens, déjà, là, des fois, là, d'avoir un drapeau canadien, ça va vous ouvrir des portes. Là, vous allez dire, hey, il est bien exagéré. Là. Peut-être pas aux États-Unis, mais en Égypte, je vous le dis, ça m'a vraiment, vraiment aidé. On faisait la visite de la vallée des rois. C'est juste une grosse vallée, mais en même temps, tu vois des petits trous noirs. Mais les petits trous noirs, c'est les tombeaux des pharaons. Fait que c'est une visite qui est extraordinaire. Et évidemment, c'est super prisé des touristes. Fait que tu arrives là, puis si tu arrives avec une âme d'aventurier, de gens respectueux de la culture, tu vas rentrer dans les tombes. Tu as fait de la recherche avant, ce qui est vraiment cool, c'est que tu vas savoir où tu t'en vas. Tu vas comprendre ce que ça représente. Tu vas donc apprécier la valeur d'eux et tu vas prendre le temps d'apprécier ce qui, moi, est vraiment un voyage d'aventurier. Tu arrives dans une place, tu arrives dans la tombe des rois, tu regardes les hiéroglyphes. C'est pas juste passe, photo, je m'en vais à la prochaine tombe. Là. Ça, c'est voyager à l'américaine. Pendant que j'étais là dans la vallée des rois, les autobus, ils en passaient. Là. Les autocars, là, avec ma tante Ginette, ils en passaient. Ils en passaient. Cling, 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 ça rentrait. Le temps que moi et mon ami du temps, on faisait une tombe, il y avait peut-être trois autobus qui passait en même temps que nous autres. Là. Fait qu'on les voyait passer, là, trrr, ça portait. Trrr. Nous autres, on était là puis on savourait le moment. Fait que ça pour dire que si vous vous préparez correctement, même pour une destination de la Californie, lire un peu sur comment est née la Californie, la conquête de l'Ouest, pourquoi sa côte Est, ça s'appelle New York, puis pourquoi que sa côte Ouest, c'est Los Angeles, puis c'est tous des noms espagnols. Puis juste ça, c'est cool de savoir comment l'urbanisation s'est développée, comprendre le lien très serré entre le peuple de Californie et la nature et la météo. C'est une raison pour laquelle, sur leur plaque, ça s'appelle le Sunshine State. Sérieusement, guys, il fait...
C'est la moitié de l'année, l'État brûle.
Ben, il y a peut-être ça, mais il fait tout le temps beau là-bas. C'est magnifique.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre show du vendredi des meilleurs moments de En toute liberté. Bon week-end tout le monde.